Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ce matin sur Instagram pour me dire, il y a quelqu'un à mon travail qui s'appelle Camille Claudio.
C'est magnifique.
Putain, la vie fait des blagues quand même. Ouais.
Quelle heure est-il ?
Ah, faut dire maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Facile, 4K.
1/4 K6.
4 jours et un micro.
1/4 citron. 1/4 en bas.
On va pas du tout baser autour de l'apéro.
Je suis en train de te remettre en question.
Tu veux qu'on prenne 5 minutes ?
Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.
Bonjour ! Bienvenue dans 4/4 d'heure, le podcast qui dure
4/4 d'heure.
Je suis Louise Petrouchka, votre hôte pour ce podcast. Et je suis en compagnie des meilleures personnes d'Internet, j'ai nommé, et de la vraie vie d'ailleurs, j'ai nommé Camille Laurent.
Ouais.
Kalindi Rumpfer.
Ouais.
Ainsi qu'Alix Martineau.
Ouais. Oh,
elle est là aussi. Quelle surprise.
Alix Martineau qui est maintenant une star de TikTok, le savez-vous?
Eh oui, c'est vrai que j'ai lancé mon petit TikTok, voilà, je fais des petits doublages sur TikTok.
Moi je vais trop bien, c'est trop cool, j'adore.
Voilà, j'en ai fait 3, j'en retourne cet après-midi avec une copine, donc voilà, je fais une petite live sur TikTok où je suis vraiment comédienne de voix sur TikTok.
C'est trop bien.
Pour essayer de ses pairs.
T'as raison. Allez suivre Alix. C'est quoi Alix Martineau? Et il y a un chiffre.
Alix Martineau 177, mais j'ai aucune idée.
Tu peux changer, je pense. Hein.
Ah ouais.
T'as j'aimerais automatiquement bien. Donné.
Ouais.
Ah ouais.
C'est poste.
Ouais.
Je pense que tu peux changer. Mais bon,
bah, okay.
On mettra dans les liens de. Le lien dans les notes du podcast, ok?
Tout
ça fait longtemps que j'ai pas animé ce podcast. J'espère
mais
que vous allez bien.
Toi aussi, t'es une star de TikTok, Louise Petrouchka. Moi, c'est juste que j'y allais pas sur TikTok, mais maintenant, je vois tous les trucs de tous les gens que je connais.
Bon, oui, moi, je mets des vidéos de moi qui mixe, quoi.
Et non, tu racontes ta life aussi.
J'essaye.
Je like tout.
J'essaye de faire des blagues.
Bravo. Marie de Breuer aussi, j'ai découvert qu'elle avait TikTok, j'étais là
en ouais, il y a des gens,
a des gens sur TikTok.
Moi aussi j'ai ouvert un TikTok quand je croyais que j'allais devenir influenceuse voyage.
Vous vous rappelez? Ouais, t'as posté 3 TikTok environ.
Voilà, et après j'ai désinstallé.
Moi c'est la limite que je pourrais pas franchir, excusez-moi, j'ai la bouche pleine.
Ouais, ça t'arrive souvent Kalindi.
Ouais, mais en fait moi je l'ai fait aussi dans un but un peu
professionnel.
De professionnel parce que en fait pour faire du doublage, c'est tellement c'est compliqué, tu vois. Il faut vraiment aller tous les matins voir les directeurs artistiques qui te disent si oui ou non tu peux assister toute la journée, c'est-à-dire regarder les autres faire pendant une journée et peut-être un jour ils te font lire un truc, mais c'est même pas passer un casting, tu vois. Et peut-être un jour ils ont un rôle, alors peut-être un jour ils se rappellent de toi et te disent ah tu veux passer des essais, et peut-être tu réussis les essais, et peut-être tu as un micro-rôle.
Wow.
Et genre c'est super dur. Et en fait, j'avais posé la question pendant mon stage, j'avais dit est-ce qu'on peut faire. On peut envoyer des bandes démos, parce qu'à chaque fois, ils demandent des bandes démos, mais je suis là, bah, on n'a rien fait, donc comment, comment on va avoir
ça
des bandes démos
compliqué.
Voilà. Et j'avais dit, est-ce qu'on peut se construire une bande démo avec des bandes rythmo? Donc, les bandes rythmo, c'est là où il y a le texte en doublage, et donc tu n'as pas la voix de l'acteur ou de l'actrice. Et je dis, est-ce qu'on peut prendre ça de YouTube ou de TikTok et se faire une bande démo comme ça? Et les profs m'avaient dit, non, pas du tout et tout, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Et après, j'ai vu une vidéo de McFly et Carlito où ils invitent toutes les voix et tout. Et il y en a notamment celui qui fait la voix de Titeuf, qui dit que lui, il ne repère plus que sur TikTok. Et donc, j'ai dit, c'est faisable aussi. Donc, j'irai assister de temps en temps. Mais en fait, j'ai plein d'autres trucs à faire, tu vois. Et banaliser une journée pour aller voir d'autres gens faire. Alors, c'est hyper. C'est super bien d'y aller et d'apprendre comme ça. Mais il y a un moment, j'ai des trucs à faire aussi, quoi.
Donc, pas votre temps, en fait, les gars. Donc,
non, mais c'est si long, tu vois, de faire tout ça. Donc, je me dis, peut-être, si je perce... Bon, pour l'instant, j'ai 1000 vues, donc...
En tout cas, si vous voulez voir Alix faire la voix de Vice Versa, oui, c'est ça, la joie dans Vice Versa, eh ben n'hésitez pas, car c'était vraiment très mignon. J'ai adoré ce moment. ce podcast, parce qu'en fait, on commence à parler, mais on vous a pas expliqué. Au cas où vous nous rejoignez pour la première fois, c'est un podcast où on raconte les ups et les downs de notre semaine. On commence par un down et on finit par un up pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et aujourd'hui, qui veut commencer avec un down? Camille, Alix qui...
Moi, j'ai un down
oh
de
là
fou.
Là. Oh allez, là vas-y. Là là, vas-y.
Me suis rendu compte que si j'étais dans des circonstances dramatiques, c'est-à-dire qu'il m'arrivait quelque chose de dramatique, je ne survivrais pas longtemps. Alors, pourquoi? Parce que j'ai vu, est-ce que vous avez vu ce film, Le Cercle des Neiges?
Nope.
Oui!
Bien sûr que non!
Ce crash, c'est le crash le plus incroyable que j'ai vu de ma vie au cinéma.
Et en fait, c'est une histoire vraie, donc ça raconte l'histoire, c'est même pas inspiré de faits réels, ça a été réalisé avec les gens qui étaient sur place. Et c'est une histoire, moi, que j'ai entendue toute ma vie, mais dont je savais pas grand chose. C'est l'histoire de l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans la cordillère des Andes.
Ah, ça me
comment
dit un truc.
Ça s'est passé, ça?
En 72.
D'accord.
Et donc, moi, j'ai toujours grandi avec cette histoire parce qu'il y a un putain de twist. Enfin, un putain de twist.
Oui, moi, bref, j'ai souvenir de cette histoire.
Ouais,
c'est... Y a pas Squeezos qui aurait fait une vidéo là-dessus?
Ah, peut-être. J'ai aucune idée.
Écoutez, peut-être.
Mais, et donc, bref, moi, je la connaissais comme ça. C'était un peu une légende, tu vois. Et en fait, le film commence... tu vois, cette équipe de rugby, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il y a des personnes dans l'avion qui ont 40 ans max. J'espère que je vais trigger personne avec cette histoire parce que c'est vraiment hardcore. et en fait, donc il y a déjà ma vieille mère, ma pauvre, t'aimes pas les avions. Donc, ouais.
Ça n'a pas amélioré
ta relation à l'aviation.
Et donc, cette équipe de rugby est affrétée dans un avion de l'armée uruguayenne pour aller au Chili pour jouer un match. Et c'est au Chili, hein? Ouais,
c'est Chili. Ouais.
Et donc toute l'équipe monte dans l'avion, tu sais, c'est pas cher en plus, c'est des jeunes, tu vois, c'est pas une équipe professionnelle, c'est une équipe, voilà. Et ils passent dans la cordillère des Andes, et là, l'avion se crash, mais violemment. C'est-à-dire qu'il se sépare en deux, comme ça, et il atterrit dans la montagne.
Dans les airs, il se coupe en deux?
Ouais.
Mais pour quelle raison?
Bah, je sais pas.
En fait, la cordillère, t'as plein d'avions qui ont disparu dans la cordillère des Andes parce que c'est sujet à des problèmes météorologiques conséquents.
Conséquents.
Et du coup, il y a eu plein de crashs, dont celui-ci. Et
mais
en fait,
il y a personne qui a jamais survécu, en fait. Parce que t'arrives dans un milieu tellement hostile, la cordillère des Andes, c'est la montagne, c'est. Une des plus. Enfin, c'est tellement vaste qu'en fait. Ils te retrouvent jamais, tu vois. Et puis surtout, enfin.
C'est pointu.
Ouais.
C'est très pointu.
Tu tombes sur des cailloux pointus.
Et donc, ces mecs-là s'écrasent. Et bon, je vais pas. Après, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est une histoire vraie. Mais donc, ils commencent à s'organiser parce qu'il y en a plein qui sont morts et il y en a 27 je crois qui survivent.
Quel cauchemar.
Et qui bah du coup sont dans un désert enneigé. Ouais. Le seul truc qui est bien c'est que t'as de l'eau parce que t'as la neige.
Ouais.
Mais t'as pas à bouffer, t'es pas habillé pour les moins 30 degrés qui fait la nuit.
Mon pire cauchemar.
Et je me disais mais moi je serais décédé. Et il y a un instinct de survie qui se développe chez ces mecs. Et je crois que le film a été sélectionné à Venise aussi. Mais faudrait que je dise son réalisateur, ce serait
Juan Antonio Bayona.
On adore.
Et vraiment, j'ai commencé ce film parce que j'adore l'histoire. Et je me suis dit, bon, bah, je regarde un film parce que je ponce en ce moment une table de chevet. Et donc, je me dis, je vais poncer ma table
de chevet. Mais littéralement,
j'ai un truc. En ce moment, je ponce tous les documentaires.
Ouais, c'est ça.
Je ponce une table de chevet à la main. Enfin, bon,
je t'ai vu faire en petit slip là.
Ouais, bah ouais, ça donne chaud. Et du coup, je me suis dit, je vais poncer en même temps. Mais impossible. C'est tellement prenant. c'est vraiment bien fait en plus parce que j'avais un peu peur, tu vois, qu'ils fassent des allers-retours dans la vie des gens qui se sont crashés, tu vois, oui, que ce soit trop romancé et tout. Non, c'est vraiment sur comment ils ont fait pour survivre, les questions qu'ils se posent parce que, donc, spoiler, ils sont restés 71 jours. Mmh. Ils sont revenus.
Mon Dieu.
Ils sont revenus à.
Mais ils sont revenus déjà.
Ils sont revenus à 16. Donc, il y en a 10 qui sont morts. Enfin, 11 qui sont morts entre temps. Mais. Heureusement, il y avait des médecins. Heureusement, il y avait un ingénieur pour réparer une radio. Sauf qu'il y a un moment qui est horrible. Je ne sais pas si tu te souviens, Cal. Ce moment où, en fait, ils arrivent à réparer la radio et ils apprennent direct live que les recherches pour eux s'arrêtent.
Oh là là, horrible.
Ils disent, on n'a jamais retrouvé d'avion ici, donc laissons tomber, quoi.
Ils disent, laissons tomber avant que le... On ira
ça,
les chercher.
Un truc de scénariste, genre, ils tombent pile poil au moment où les gens disent, on ne vient pas vous chercher.
Mais je ne sais pas si ça s'est vraiment passé, mais en tout cas, je sais, parce qu'il y a tout un documentaire ensuite, après le film, qui est sur Netflix, d'ailleurs, qui explique comment, en fait, ils ont réalisé le film, et donc, ils ont demandé aux survivants de venir... de venir participer au film. Ils ont pris que des acteurs qui n'étaient pas connus pour qu'on projette rien sur eux et que vraiment on apprenne à connaître et que leur personnalité corresponde à la personnalité des gens qui étaient dans l'avion. Et c'est un vrai hommage aux gens qui sont décédés dans cette survie. Et c'est... Enfin, bref, je sais pas si je dis ce twist. Bon, si vous voulez le regarder et que vous n'avez pas du tout de quoi ça parle...
Ouais, moi, je pense que c'est le... Je pense savoir ce que c'est le twist.
Bah oui, parce que quand t'as... Bon, bref, arrêtez l'épisode-là.
C'est un truc...
Après, oui, bon, sur la survie, t'as rien à manger, il y a 20 mecs morts, on voit un peu comme ça, quoi.
C'est ça.
Voilà. Et moi, c'est une histoire qui me passionnait depuis toujours, tu vois, parce que je me disais, putain... Enfin, tu sais, la question se pose.
Et est-ce que c'est bon?
Alors...
Mais moi, ça me semble fou qu'on se pose la question, genre, quand tu dois survivre, tu dois survivre.
Alors moi, oui, tu vois, mais pareil, donc dans le film, ils expliquent qu'il y en a un, justement, qui voulait pas du tout, parce qu'il était très catho et tout, il voulait pas du tout...
J'ai cru qu'il était très végé.
Végane jusqu'à la mort.
Je suis végane.
Je suis trop végane pour survivre.
Too vegan to be alive. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, quand t'as des convictions personnelles comme lui,
C'est vraiment un dilemme éthique, quoi. Ouais.
Mais en fait, le dilemme éthique, il n'existe pas.
Sinon,
tu crèves. Enfin, l'instinct de survie dépasse complètement ça. Mais moi, je me suis dit, putain, t'imagines, heureusement qu'ils ont été sauvés à partir de 71 jours, parce que une fois que t'as faim. Que t'as goûté la chair humaine.
T'as mangé les morts, ouais.
T'as mangé les morts.
T'as bien mangé tes morts.
T'as bien mangé tes morts.
Littéralement.
Est-ce qu'il n'y a pas une guerre qui s'installe. Enfin, tu vois, entre les survivants et les
gens. Je crois que c'est le truc de Sa Majesté des Mouches aussi.
Ouais, il bouffe des gens. Ouais.
Et je crois que potentiellement, il y a ce truc de est-ce que maintenant qu'il n'y a plus rien à bouffer de mort, est-ce qu'on ne va pas aller s'entretuer, quoi. Ouais. C'est un classique de la survie, ouais.
Mais en tout cas, eux, ils sont très mimsou et tout. Enfin, il n'y a pas de souci. ils bouffent leur mort avec respect.
Très mimsou.
Non, mais en fait, c'est trop intéressant, je trouve, les questionnements de tout ce film, parce qu'il leur arrive... Encore, ils se seraient que crachés.
Bon. Déjà, c'est
mais
compliqué.
Il leur arrive que des merdes, tu
après,
vois,
peut-être, il y a John Locke dans le lot, et là, tout va bien, quoi.
Mais non, mais c'est ça, t'as deux types, en fait, qui ont dit, écoutez, on va faire le sale travail, on va découper les gens morts pour vous, tu vois, et pour que, en fait, les gens se rendent pas compte. En fait, ils ont fait tout ce que l'industrie de la viande fait dans le monde, tu vois, c'est-à-dire faire le sale boulot, et puis quand ça arrive dans ton assiette, c'est un steak, bon, ça va, tu vois.
Ça n'a jamais été une vache.
Ça n'a jamais été une vache. Non, mais... Franchement, ce film, j'ai pas décroché une seule seconde. Après, ça m'a déclenché des petites crises d'angoisse.
Beaucoup d'angoisse, j'imagine.
C'est pas un film à regarder comme moi à 2h du mat. parce que vraiment, j'ai pas dormi beaucoup après. Mais, et c'est là que je me suis dit, putain, moi, je suis inutile dans ces moments-là. Je suis inutile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un podcast?
Et moi, alors, genre des vannes?
Après, il y a des moments où ils se racontent un peu des vannes pour se remonter le moral. Il y a tout un moment comme ça où, en fait, ils passent quand même 71 jours ensemble. Donc, t'es en mode survie tout du long.
C'est la pire
télé-réalité. Mais il y a un moment, ça devient... ta maison. Enfin, et tu vois, quand ils, bref, quand ils sont sauvés, ils ramènent un peu des bouts de chez eux. Enfin, non.
Quoi?
J'ai mal choisi comme mot. Mais genre, ils veulent ramener des choses
de
cet endroit,
tu vois. Ah ouais.
Et je crois que pour le film, les survivants sont revenus à l'endroit,
oh,
il me semble.
Angoisse quand même. Tu te dis, est-ce qu'on va pas y rester une deuxième fois?
Ouais, je pense l'hélico, tu le tu vérifies si c'est
solide.
Ouais,
tu fais toc-toc pour savoir si c'est solide. Je pense que ça marche.
J'adore les films de survie. Genre vraiment, j'ai honte, mais un de mes films préférés, c'est Everest. Et j'adore, ah ouais. Ouais, j'adore ce film, j'adore Josh Brolin en plus. Mais ce que j'ai trouvé dingue dans celui-là, c'est vraiment comment ils ont filmé le crash.
Ouais.
Franchement, j'avais jamais vu ça, parce que t'as des moments au ralenti où tu vois les corps qui sont projetés sur les sièges de devant, qui se projetaient sur les sièges de devant, les jambes qui se brisent au ralenti, ce machin. Et la scène, elle est interminable. Ouais. Enfin, quand t'as un peu peur de l'avion comme Wham, t'étais là. En plus, je rentrais d'Espagne, j'étais là, voilà, je l'ai échappé belle. En passant devant la cordillère des Andes de l'Espagne.
Mais bien sûr, oui.
Donc,
tu veux dire les Pyrénées, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est un super crash. Et ils ont utilisé 4 carcasses d'avion. Enfin, ils en ont reconstitué 4 qu'ils ont mis à différents endroits pour filmer à chaque fois le crash et puis la survie aussi à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils survivent dans la carcasse de l'avion. Enfin, c'est un film vraiment...
Oh, ça me met des angoisses.
Ça met des angoisses de fou. Mais c'est vraiment un super film sur le sujet. Et moi, tu vois, j'en avais... Ouais, je connaissais l'équipe de rugby qui s'était écrasée et qui avait bouffé des gens. Mais c'est vraiment pas comme je me l'imaginais, tu vois. Enfin...
Bah moi, ce qui m'a déçue, c'est que j'étais persuadée que ça allait être un film qui flirte avec l'horreur, tu vois. Parce qu'en fait, Juan Antonio Bayona, il a commencé par faire du cinéma d'horreur. C'est lui qui a fait L'Orphelinat.
C'est lui.
Et c'est le scénariste, je crois, du Secret des Marrow-Bones. Et tu vois, il a fait plein de trucs un peu genre...
C'est lui.
Un peu de genre. Après, il est parti en couille. Il était allé à Hollywood. Il a fait genre Jurassic Park 18. Voilà. Mais du coup, je me suis dit...
C'est le meilleur,
un gars...
le 18.
Non, mais tu vois, c'est un gars qui aime le genre et tout. Et du coup, j'étais persuadée qu'il allait prendre cette histoire et qu'il allait en faire un truc un petit peu, tu vois.
Mais et je en pense fait, que tu peux pas.
C'est resté assez naturaliste, à part qu'ils ont fait cette image très grainée et tout.
Ouais.
Et puis il y a des mots. Non, c'est très beau, hein. Franchement, c'est hyper
c'est
beau.
C'est magnifique.
C'est hyper émouvant. Ouais. Les acteurs sont super.
Moi, j'ai pleuré. Les acteurs sont vraiment super. Mais je pense que tu peux pas faire de l'horreur quand c'est la vraie histoire des gens et qu'ils sont là pour aider le film, tu vois. C'est difficile.
Oui, c'est pas le même parti pris. Mais du coup, moi, j'étais persuadée, je m'étais mis dans la tête que j'allais mater un film d'horreur. Quoi.
Ouais, catastrophe. Et le docu, il est sur Netflix et le film aussi?
Ouais, les deux. En fait, le docu, c'est sur le film. C'est comment ils ont filmé. Ça dure 30 minutes après. Mais non, c'est vraiment un super film. Et je trouve que ça fait te poser des questions. Quoi, parce que moi, vraiment, mais moi, j'aurais été trop faible. Après, je sais pas, j'imagine que dans des moments comme ça, t'as ton instinct de survie qui kick-in. Ouais, mais je pense que t'as ton instinct de survie qui kick-in, tu vois. Genre qui.
Moi, j'ai fait.
Elle kick-inait.
Moi, j'ai fait du snowboard une journée, c'était un cauchemar. J'avais mal aux pieds.
Oui, je pense que t'aurais eu mal aux pieds.
Donc, ouais, non, 70 jours dans la cordillère, merci, quoi.
Non, mais tu te rends compte? Moi, ça m'a paru.
On se rend pas compte, de toute façon. Je pense
non, on
peut
se rend pas compte.
Et toi, donc, tu penses que t'aurais crevé jour 1?
Et en fait, tu vois, je me disais.
Moi, je serais morte dans l'avion déjà.
Moi aussi.
Non, mais limite, en fait, puisque le pire. Alors, le mieux, c'est ceux qui s'en sortent. Mais le pire, c'est ceux qui s'en sont sortis du crash, mais qui sont morts
pendant la
survie, tu vois. Et notamment le tout dernier à mourir. Enfin, c'est. Waouh!
Oh non,
c'est
mais
intense.
Je sais pas, ça me met déjà des angoisses alors que j'ai pas vu le film.
Bah,
ouais.
Un bon non, down. Non,
moi, je l'ai vu dans le métro pour aller à Bagnolet, ça m'a rien fait du tout. J'étais là, bon.
Non, mais c'est ça, faut peut-être le regarder à un moment avec beaucoup de distance parce que moi, je t'avoue, au milieu de la nuit où j'ai que ça à faire.
Mais oui, t'es zinzos.
C'était.
Eh oui, j'imagine.
J'ai un peu panikos.
Bon, écoute, je te souhaite de jamais passer au-dessus de la cordillère des Andes en avion.
Vraiment, je le referai. Je le referai pas. Même si je l'avais déjà fait, là.
It's enough. Merci pour ce down, ma chère Alix. Kalindi, as-tu un up?
Oui. J'hésite.
Oui, bien sûr.
J'hésite. Je voulais vous parler d'un truc culturel, mais je voulais vous parler de Trou Détective saison 4.
Oh.
Mais comme Alix vient de parler déjà d'un truc qui fout le plomb et que ça fout un plomb stratosphérique.
Attends, mais alors Trou Détective, c'est quoi déjà le la série
il y a la
c'est
Matthew McConaughey. Ouais, c'était Matthew McConaughey.
Ah oui, c'était. Ok, d'accord. I see. Le gars de Hunger Games. Désolé.
Le gars de Hunger Games.
C'est pas un des gars dans Hunger,
ah
dans
non,
Hunger Games, le deuxième.
Ah si, celui qui. Je, Woody Harrelson.
Ah, voilà.
C'est Woody Harrelson.
Ah oui, ouais. C'est Woody Harrelson. Le flic, c'est Woody Harrelson.
Ouais.
Ah ouais, putain.
Ouais.
Je crois que c'est un type qui lui ressemble.
Et c'est vrai qu'il est dans Hunger Games, j'avais oublié. C'est ouais. Le chevelu blond là.
Oui, c'est ma ref.
En effet. Et mais bon, ça fout un plomb. Mais enfin, juste en petit préambule, voyez cette saison. Donc en gros, Trou Détective saison 1, c'était génial.
Ouais.
Saison 2, Pizzolatto, il a pris la grosse tête. Il a voulu tout faire tout seul. Et c'était vraiment à chier. Il s'est pris des critiques atroces dans la tronche. Saison 3, il s'est passé 3 ans. C'était génial. Et là, saison 4, ça faisait au moins 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas eu de saison.
C'est mais ouais, j'ai l'impression.
Moi, je croyais que c'était fini. C'est avec. Jodie Foster, oh. Et c'est vraiment full horreur. Pour le coup, ils ont pris un tournant.
Ah, trop bien.
Et vraiment exceptionnel truc. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé une série. Bref, du coup, ce sera pas ça. on a déjà parlé d'un truc qui fout le plomb. Je vais vous parler, du coup, de ma formation.
Ouais,
que
ouais.
Je suis en train de... ah, trop bien, ça. Que je suis en train de terminer, là,
punaise,
cette
on
semaine.
T'a pas vu pendant un mois. J'ai trop hâte de savoir ce qui s'est passé.
Eh bien, écoutez, je ne suis plus l'ombre de moi-même. Je suis épuisée. Donc, j'ai fait une formation de réalisatrice de fiction auprès du CEFPF, qui est le Centre Européen de Formation pour les Métiers du Film, qui propose qu'un centre de formation qu'on peut se payer via le compte CPF, l'AFDAS, Pôle Emploi, enfin via plein de structures qui peuvent vous aider, puis après vous pouvez compléter un peu ou non. Et ça propose de faire des formations de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, d'assistants réels, bref. Un peu tous les métiers du cinéma. Et moi, j'ai choisi réalisation de fiction parce que avec ma fille, on va faire, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, un court-métrage dans quelques mois.
Oh mon Dieu.
Plus, moi, j'aimerais faire mon film adapté de mon livre moi-même, lol. Donc, du coup, il faut que j'ai des arguments pour pouvoir convaincre des producteurs et il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Or, moi, j'avais déjà fait un petit peu de réalisation, mais documentaire quand j'étais à l'école de journaliste, puisque je le rappelle, je suis censée être JRI dans la base.
C'est vrai.
Ce qui est la plus grosse blague de l'année.
Et n'oublie pas.
Journaliste, reporter d'image, donc.
Oui.
N'oublie pas notre réalisation pour le Nikon Film Festival.
Oui, ouais, bien oui. Sûr.
Un grand film.
Et puis, ouais, donc quand j'étais à l'école, on tournait beaucoup. On avait notamment tourné des petites séries documentaires pour un média qui s'appelle Toute la Culture. On avait tourné des sujets à Cannes, mais c'était des sujets journalistiques. Et puis, j'avais passé mon mémoire. C'était un petit documentaire de 13 minutes, un truc qu'on avait filmé pendant 6 mois et tout. Donc, je voyais un peu comment ça se passait au niveau documentaire. Et puis, j'avais une approche de la réal en tant que personne qui assiste, enfin qui regarde, parce que j'ai une marraine qui est productrice et donc... qui a notamment été la productrice de Hélène et les garçons, Les Vacances de l'amour et tout. Et quand j'étais jeune, j'étais partie sur le tournage des Vacances de l'amour pendant 2 semaines à Saint-Martin.
Wow.
C'était chambé, c'était les meilleures vacances de ma life. Et puis, bon bref, j'avais assisté
t'as
à plein de trucs.
Encore des vacances à nous raconter. Genre, c'est
vous saviez ça, je crois que j'ai déjà raconté dans LMK. Et voilà, mais il fallait vraiment que je mette les mains dans le cambouis et notamment pour apprendre à communiquer avec les différents chefs de poste qui sont sur le tournage. Et donc, cette formation, je l'ai commencée il y a un mois et je l'ai trouvée vraiment super. Alors, le seul défaut, c'est que vraiment, le CEFPF avait vendu une partie de ses locaux, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à partager une espèce de maison d'architecte avec des architectes qui font un job d'architecte.
pendant que vous êtes en train de tourner des trucs.
Pendant que nous, on est en train de tourner des trucs. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous, on est au rez-de-chaussée et on leur a dit « Désolé, silence en haut, on va tourner !» Et ils n'ont plus le droit de faire des calls, par exemple. Enfin, vraiment extrêmement bizarre.
Ça me rappelle chez Mademoiselle quand on tournait des vidéos que tout le monde est en train de travailler dans les locaux et là, t'as d'un coup des gens qui arrivent qui disent silence, on tourne. Et toi, t'es en mode d'accord, on ferme bien nos gueules.
Ouais, c'est ça. Et en fait, t'es là. En fait, bon, la formation coûte plus de 7000 euros.
Oh, wow.
Donc, c'est excessivement cher. C'est presque
pour
une année.
Pour un mois.
Pour un mois, ouais. Donc, c'est l'équivalent d'une année d'études audiovisuelles dans une école privée, quoi.
Et mais bon, c'est pris en charge par plein de centres. Mais moi, j'avais complété à hauteur de 700 balles. Et je trouve honnêtement que pour le prix, c'est un peu abusé de nous foutre dans une dans un truc avec des gens qui ont rien à foutre avec la choucroute, qui sont avérés en fait super sympas, qui nous ont aidés, qui ont perché, qui ont fait vraiment en fait, ils sont trop pris au jeu. Et notamment une zouze là, Sonia, qui a vraiment grave aidé. Et aussi, j'ai trouvé un peu scandaleux que jamais il y ait de thé, ni jamais de café.
C'est-à-dire, vous arriviez le matin, c'était...
On devait apporter notre thé, ouais.
Mais non.
Il n'y avait même pas de glaçon. Il n'y avait même pas de glaçon dans le frigo américain.
Pardon, c'est un peu abusé.
Simplement remboursé.
Un peu scandaleux, ouais. Et en fait, vraiment, j'ai trouvé ça formidable, surtout les deux premières semaines qui ont été très théoriques. Et en fait, c'était vraiment de ça dont j'avais... fondamentalement besoin, c'est-à-dire mon prof principal s'appelle Jean-Marc et c'est un super chef-op qui a tourné plein de films et qui est spécialiste des films qui se tournent en Inde et en Afrique du Sud. Donc il est parti toute sa vie faire des tournages aux quatre coins du monde et tout. Franchement, il a fait des films magnifiques, j'en ai vu quelques-uns. Et donc c'est notre prof principal qui était vraiment genre l'homme le plus concerné par sa discipline que j'ai vu de ma life. Il arrivait le matin une heure avant tout le monde pour installer tout son matos. Il avait préparé 8 diapos avec.
Il a pas le temps de faire un thé et un café.
Mais il y avait pas de thé ni de café, Alix. C'est ça le problème. Mais
choquant. Et en plus, bon, je raconterai ça après. Et voilà. En fait, la première semaine c'était vraiment passionnant parce que le premier jour on a eu un réalisateur qui a fait un super film avec Neil Schneider qui s'appelle Sentinelle Sud, un réal qui est venu toute la journée discuter avec nous de comment préparer un tournage. On a pu lui poser toutes les questions relatives à nous, nos projets. Donc ça, c'était un vrai bon moment. On a pu tous se dire ce qu'on voulait faire. Dire, ah bah toi, tu fais ça, moi, je sais faire ça. Peut-être on peut bosser ensemble dans le futur. J'ai rencontré plein de gens super talentueux. Et donc, on a été huit pour cette promo-là. Et quasiment que des scénaristes et des gens qui sont déjà réalisateurs, mais de documentaires notamment, ou de pubs et tout. Et j'étais avec la scénariste de Tchoupi. Incroyable.
Oh non !
Depuis 20 ans.
Oui, trop bien.
Et donc, trop marrant. J'ai rencontré plein de gens vraiment super, avec qui je pense qu'on restera copains. Et donc la première semaine, on a vu un réal. Ensuite, on a appris vraiment à bosser la lumière et la photo avec le chef-op.
Trop intéressant ça.
Et puis après, on est rentré dans le vif du sujet avec le découpage. Donc en gros, comment tu traduis ce que tu lis dans un scénario en plan et comment tu penses ton plan, de ta valeur de plan, à quelle focale tu choisis, à quelle lumière, à quel panneau il faut. Enfin bon, bref, absolument tout en fait.
Bien sûr.
C'est un taf pantagruélique. Ouais, qui nécessite plusieurs cerveaux. Genre vraiment, il y a une fois, on a passé un après-midi sur un découpage et on a fait vraiment deux séquences, donc on était un peu démoralisés. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a rencontré.
Quoi.
Ouais, c'était très fastidieux, mais c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est vraiment ça le boulot du réalisateur. Et ce que j'ai vraiment appris pendant cette formation, c'est qu'en fait, c'est pas le métier le plus créatif, tu vois. En fait, le moment plus créatif, t'es vraiment exécutant. Ouais. Et vraiment, le moment créatif, ça va être en amont. C'est le boulot du scénariste, quoi. C'est lui
et
qui va
montage.
Littéralement façonner l'histoire et ensuite le montage. Mais c'est vrai que le moment du tournage, de fait, bon, bah, tu dois appliquer essentiellement ce que t'as travaillé à faire au préalable. Et donc, la préparation de ton film, c'est quasiment ce qu'il y a de plus compliqué et de plus long à faire. Et donc, c'est ce qu'on a vachement, on a passé vachement de temps à faire ça, à préparer nos films. Et donc, on a rencontré ensuite une script, on a rencontré un ingé son, on a appris comment communiquer avec eux, comment communiquer nos envies. C'est rentré vraiment dans les détails des métiers de tout le monde. On a pu vraiment pratiquer un petit peu. Vraiment mettre les mains dans le cambouis, quoi.
Et puis après, c'était je crois que c'est Tarantino qui disait que en gros, faut pas être bon dans tous les métiers pour être réalisateur, il faut être bon pour dire ce que t'as dans ta tête et savoir comment le dire aux gens qui savent faire ça, tu vois.
Bah ouais,
et
c'est
faut
ça.
Pas être faut être visionnaire.
Bah ouais, c'est un peu ça. Et d'autant plus que même si t'as un plan de travail super détaillé avant de te lancer dans la confection de ton film, en fait, bah, ça reste plein d'inconnus, tu vois, parce que tu vas te lancer dans la réalité avec des gens qui vont arriver en retard, des acteurs qui vont pas connaître leur texte, un gars qui en fait est naze, enfin bon, bref. Et puis, la production qui te met la pression, etc. Et donc, le truc qui a été vraiment cool, c'est qu'ensuite, on nous a mis par binôme et qu'on nous a attribué un court-métrage à réaliser de concert.
Trop bien.
Et en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on tournait un film, si on n'était pas réel sur ce film-là, on tournait sur les autres postes. Donc moi, j'ai été Perche Girl, par exemple. Et je raconterai ma mésaventure de Perche Girl dans un cinquième quart d'heure, je pense. et voilà. Et alors, moi, le seul truc, évidemment, je trouve que c'est toujours comme ça dans la vie, cette formation, je devais la faire en septembre dernier. Ouais. Donc, le 4 septembre dernier. Et j'avais clear tout mon agenda en disant...
T'avais acheté
voilà,
des tenues.
J'avais acheté un chapeau de cow-boy exprès et tout.
C'est ton chapeau de réal, quoi.
En fait, ouais, je m'étais dit, tu vois, je veux montrer que j'ai une personnalité de réalisatrice. Ce sera celle de Cowgirl. Donc, j'avais acheté un chapeau de cow-boy, mais ça n'a plus de sens à cette saison. Enfin, bon, bref.
Chapeau d'automne.
Ouais, tu vois. Bah oui, typiquement.
Pourquoi ça s'était pas fait en septembre?
J'y viens. Donc, je clear mon agenda. Je me dis, pendant un mois, je fais que ça. Comme ça, je me lance vraiment à fond et tout. On m'appelle deux jours avant pour me dire, excusez-moi, il n'y a pas assez de gens inscrits à la formation. Donc, ça va pas être possible. Donc, ce sera quand? Ils m'ont dit, bah, on sait pas. Je dis, mais vous rendez compte que j'ai un job?
J'ai pas que ça à
foutre. Vous rendez compte que, enfin, je n'ai pas que ça à foutre, en effet. Vous pouvez pas me prévenir trois semaines avant en me disant, bon, bah, c'est là dans trois semaines. Donc, super chiant. Et finalement, ils m'ont prévenu un mois avant que j'allais faire la formation au mois de janvier. Donc j'étais trop contente et tout, sauf que évidemment toutes les choses se passant en même temps, c'est le moment où on me dit bah en fait ton livre on le prend chez Lattès. Du coup
faut le réécrire
une semaine,
encore.
Voilà, donc une semaine avant qu'on fasse les tournages, on m'a dit bah voilà, t'as 5 jours pour réécrire ça, augmenter ça, supprimer ça, et aussi on me laisse gérer la couverture, ce qui est formidable parce que du coup j'ai une liberté extraordinaire, mais c'est un travail faramineux quoi. Donc c'était ça en plus. Du coup j'ai dû demander à la formation de me laisser partir plusieurs jours, donc j'ai raté 4 jours de formation que je vais rattraper en avril. Enfin bon bref, tout un truc compliqué. Mais en tout cas, pour le tournage que j'ai fait avec ma collègue Armel, c'était formidable. C'était deux séquences adaptées de Parasite, le film.
Trop bien.
Et avec, c'est vraiment, si vous l'avez vu, c'est le moment où t'as les riches qui reviennent chez eux et t'as ceux qui squattent qui sont obligés de se planquer sous la table.
Ouais. Il est génial, c'est vraiment.
C'est super, mais en fait, c'est une tanasse de mise en scène.
Ah ouais, t'as fait les lignes et tout ou pas?
Bah oui, bien sûr.
Putain, les lignes de Parasite.
Et franchement, c'était un super, c'était vraiment passionnant à faire. Mais alors en amont, c'était un travail mais vraiment infernal de découpage parce que pour le coup, c'était très compliqué. Enfin, c'était assez compliqué à découper.
Mais quand tu parles de découpage, explique un peu de ce dont tu parles.
Bah, c'est en gros traduire chaque chose qu'il y a dans le scénario en plan. Donc c'est pour chaque action, combien de plans on imagine. Bah là, ils sont en train de se parler sur le canapé. Je veux d'abord un plan sur eux en rapproché poitrine. Je veux un
contre-champ.
Je veux un de dos. Je veux si ouais. Je veux ça. Donc c'est à chaque fois quel plan littéralement tu veux quoi.
Et pour changer de plan, faut changer
de
toute la lumière,
changer le décor de place. Enfin bon, c'est une tannée quoi. Mais franchement, c'était une super expérience d'apprendre à diriger tous ces corps de métier dans un contexte vraiment professionnel. Et donc, en plus, on avait un chef-op pro, un ingé son pro, et puis tous les autres qui avaient appris leur métier en quelques jours, quoi. Et franchement, c'était hyper enrichissant. C'était super de le faire avec quelqu'un d'autre aussi, parce que ça m'a... autant pour bosser avec Alix, je m'inquiète pas trop, parce que ça fait des années qu'on se connaît, qu'on sait communiquer l'une l'autre, qu'on sait qu'on se vexe pas facilement et qu'on peut se dire les choses de manière assez frontale et ne pas mal le prendre, autant
tu en as un peu les mêmes idées.
Ouais, et autant avec ma binôme, là c'était compliqué parce que c'est une femme qui a 50 ans, qui sait vraiment ce qu'elle veut, qui bosse dans le cinéma depuis longtemps, qui est actrice et qui a l'habitude de gérer les acteurs et de diriger les acteurs. Du coup, elle a naturellement pris un peu le lead là-dessus. Et du coup, je l'ai beaucoup observée, communiquée avec les acteurs, c'était passionnant. Du coup, je pense que je vais faire une autre formation pour la direction d'acteurs. Et ce que j'ai beaucoup appris là, mais je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le.
Bah, faut les rencontrer. Enfin, moi je sais que j'avais fait ça de la direction d'acteur pendant un an et demi je crois, et ouais, c'est un délire quoi, parce que eux ils ont été formés à quelque chose où toi t'es jamais allé dans leur école.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait ils ont un langage pour parler que toi tu connais pas du tout, et donc en fait d'apprendre d'eux, de savoir ce qui, comment ils travaillent, ce qui fonctionne, de quelle école, rien que quelle école, dans quelle école ils sont allés ou quel bouquin ils ont lu, c'est pas les mêmes gens, tu vois, c'est pas la même manière de travailler. Donc il faut s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. De toute façon, être réel, c'est s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et puis il faut pas les leur montrer, il faut pas les imiter, faut pas, enfin il y a plein de choses à pas faire. Donc Armelle a super bien fait ça. Du coup moi je suis plus restée sur le combo à checker plein de trucs en termes de technique, à apprendre un petit peu de mon chef-op, regarder vraiment comment il faisait et tout. C'était vraiment hyper intéressant. C'était super challengeant et franchement je suis très contente parce que les premiers jours c'était très difficile pour moi de me retrouver de nouveau en situation d'apprenante alors que l'école ça avait été un tel calvaire pendant 20 ans de ma vie. Et de retourner à l'école à 31 an, franchement, j'étais là, pas évident. Voilà, donc c'était vraiment, au début, j'étais là, putain, c'est dur, j'ai du mal à communiquer avec les gens de mon âge, j'ai toujours eu du mal ça, à me faire une place dans les groupes et en fait, ça dure juste 2 jours, je devrais le savoir. Pendant 2 jours, je suis un peu timide et tout et après, je suis genre la best meuf, tu vois.
Personne ne sait que tu étais une enfance en trousse, t'inquiète.
et puis, tu vois, je veux toujours avoir l'air cool, mais enfin bon, enfin voilà, quoi, comment tu te présentes aux autres, quoi. Donc les premiers jours, c'était un peu difficile pour moi et en fait, très vite, j'ai pris ma place au sein du groupe, j'ai pu être la meuf que j'espère être marrante le plus possible et faire rire même mon prof principal et Dieu sait que c'était pas gagné mais voilà et donc franchement ça m'a un peu réconcilié avec le concept de l'école et du coup là je pense que je vais faire une formation direction d'acteur et une formation de scénariste pour vraiment backer mes compétences et être sûre d'être forte quoi.
Et donc là vous êtes en montage en ce moment?
Là en fait on a juste 2 jours de montage dans la semaine donc ça c'est cool parce
que vous repartez avec votre DVD à la fin
et tu repars avec ton film
trop bien
et c'est trop cool parce que c'est vraiment un beau produit, franchement.
Ouais, c'est trop cool.
C'est vraiment joli. En plus, on avait un chouette décor. Armelle s'est bougé le cul pour qu'on ait un canapé. Enfin bon, bref, elle s'est vraiment bougé le cul quand moi, j'étais en train de réécrire mon bouquin pour gérer la déco. Donc, non, vraiment, c'était chouette. Et on repart avec quelque chose. Et ça, c'est quand même...
Ça, c'est trop cool. J'ai tellement hâte de voir.
Non, franchement, c'est chouette. Enfin, voilà. Donc, super expérience. Et j'ai hâte de continuer, quoi.
Ouais, trop hâte.
Magnifique.
De la suite, ça va être super.
On vous parlera de notre court-métrage bientôt avec Alix Martin.
Oui, de ouf. Très bien. Et ben merci, Kalindi, pour ce up. Super. Et ma chère Camille...
C'est moi.
Est-ce que tu aurais un down? Qu'est-ce qui fait que ta vie c'est de la merde en ce moment?
C'est l'alcool. Plutôt ma passion pour l'alcool.
Vraiment, ça fait 2 épisodes qu'on dit que tu vas arrêter l'alcool. Et ouais, là, mais c'est enfin l'alcool ton down.
Là, on va s'en parler vraiment. Là, on arrête les conneries. Donc, on a un peu effleuré le sujet la dernière fois avec Manon Bril qui disait qu'elle voulait changer son rapport à l'alcool et que du coup, elle avait fait le dry January.
Ouais.
Et moi, j'ai pas du tout fait le dry Jeanne-Marie, en fait. Moi,
t'avais pas prévu de le faire?
Non, d'ailleurs. Voilà.
Non, mais parce que si t'avais prévu de le faire et que t'avais vraiment pas réussi en buvant chaque jour...
Non, ça a pas fait partie de mes ambitions à la base. C'était même pas dans mes bonnes résolutions d'arrêter l'alcool. Mais en fait, là... Bon, moi, j'ai toute une foule d'addictions merveilleuses et je me suis dit, on va commencer par l'alcool. En fait, pourquoi? Parce que mon January a été very wet. J'avais pas prévu de faire le dry,
it was.
Mais j'avais pas non plus prévu de boire autant en janvier. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font que je bois trop. Il y a déjà...
L'addiction, déjà.
Non, mais il y a trop souvent, il y a le fait que je fasse le stand-up.
Ouais.
Et souvent, bah, c'est quand même dans des débits de boissons. Comme on les appelle nulle part.
À la mairie, peut-être.
Peut-être, oui. Et donc, c'est souvent dans des bars. Et tout le temps, t'as un verre gratos quand tu joues. Au moins un, quoi. Oui. Parfois deux. Et en plus, t'es stressé quand tu vas jouer. Donc, si t'es déjà quelqu'un qui boit, tu le prends, le verre gratos, franchement. Ouais, parce que ça te détend, quoi. Alors, au début, ça peut être piégeux quand tu commences le stand-up et que t'es vraiment très stressé. Tu t'aperçois que,
que un demi, ça va.
une pinte, bonjour les dégâts. En fait, il y a un endroit de la pinte, jusqu'à un certain endroit de la pinte, ça te met en confiance et ça te détend.
Tu deviens le Grinch.
Il y a un endroit où tu... Plus tu bascules et tu peux plus articuler littéralement, ce qui est quand même dommage quand t'essaies de parler aux gens dans un micro. Donc il y a ça, il y a... Moi j'ai fait des études à la fac, enfin je sais pas si c'est comme ça dans toutes les études supérieures, mais c'est quand même un milieu très alcoolisé, quoi.
Oh, oui. Je sais pas si c'est comme ça.
Si, c'est comme ça partout.
Je pense vraiment que c'est comme ça partout.
C'est dingue. La culture étudiante, elle va trop avec l'alcool, quoi. Et nous on se mettait des caisses incroyables. Donc... J'avais eu l'impression de m'être améliorée dans ma trentaine par rapport à ma vingtaine. Parce que
ah oui,
de toute façon,
foncièrement, tu t'es améliorée, oui, j'imagine.
Bah, mon corps me permettait plus de boire ce que je pouvais boire à 20 ans, donc j'avais dû de toute façon me mesurer.
Puis tu bois pas les mêmes alcools aussi, non ? Il y a pas un truc de
ah si, moi je bois toujours la même chose depuis tout le temps.
Ah ouais ?
La première fois que j'ai dû choisir quoi boire dans un bar, j'avais genre 15 ans et...
Aïe aïe.
J'en avais
15. Ben oui, bien sûr. Bon,
en fait, j'étais... Vous voulez que je raconte ça ?
Oui, vas-y.
J'étais en vacances avec mes parents en Croatie et je m'étais échappée de la chambre d'hôtel où on était avec mes sœurs pour pouvoir aller fumer mes premières clopes. Ouais, c'est un cauchemar. Et donc, j'étais sortie de la chambre comme ça, j'étais allée sur le front de mer juste fumer des clopes et penser à la mort, tu vois. J'avais 15 ans, j'étais déprimée.
Et...
aïe. Et j'avais rencontré des Croates avec qui j'avais fait la fête. Et il y avait un mec qui m'avait dit « Tu bois quoi ?» Et moi, j'étais là « J'en sais rien, j'ai 15 ans
!» Rapport que légalement, j'ai pas droit.
Et lui, buvait des vodkas toniques. Du coup, j'avais pris la même chose. Et ça fait 15 ans que je bois des vodkas toniques.
Ah ouais ?
Ouais, parce putain. Qu'en fait, j'aime bien le tonique. La vodka, ça a pas trop de goût. En fait, il y a assez peu d'alcool dont j'aime le goût, quoi.
Peut-être parce que c'est pas bon.
Ouais, peut-être. Je bois de la bière parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible.
Quand même, ça te plaît,
ah oui, le vin, j'adore.
Ah, voilà.
Mais ça, c'est venu un peu plus tard en mode même j'apprécie et tout, quoi. Mm. Enfin, non, c'est pas venu plus tard. On se mettait des cuites au Roche-Mazé.
Mais oui.
Les vrais, le sable. Mais voilà, bien on s'en sûr. Foutait de la qualité
pas
du vin, quoi.
Moi, j'ai adoré boire de l'eau toute mon adolescence. C'était vraiment super. Ainsi que toute ma vingtaine.
Et ouais. Et j'allais où, attends ?
Donc, ouais.
Donc ouais, c'était genre les différents trucs qui font que tu bois.
Je bois de la bière, mais j'aime pas. Mais c'est ce qu'il y a de pas cher et que tout le monde boit. Donc je mets du sirop de citron dedans. Voilà, ça s'appelle un twist. Donc ça, c'est deux trucs que je bois. Des twists et des vodka toniques. Dans le sud, ça s'appelle un gommé. Voilà, vous savez tout. Et donc là...
C'est comme l'autre jour, j'ai découvert une putain de boisson de ouf.
Dis-moi.
What is it? Qui combine deux choses que j'adore. Le pastis et le sirop d'orgeat.
Ah bah oui, oh, ça me dégoûte.
Oh, ça
j'adore ça.
Oh là là.
Comment
bah,
ça s'appelle?
T'aimes l'anis quoi.
C'est la pire chose. C'est pas le perroquet, ça, c'est avec la menthe.
Non, c'est le...
Ah, je sais pas, ma copine Louisanne, elle boit ça tout le temps.
Moresque.
C'est une moresque.
Voilà, cresque, c'était pas tout à fait ça.
Ah.
Moresque.
Ouais, ça me dégoûte.
Ah ouais, moi j'adore.
Crémience balbure.
Crémience balbure.
Excusez-moi.
C'est quoi ?
C'est le nom que j'avais trouvé à Alix et je n'arrivais pas à m'en souvenir avant ce tournage et ça vient de me frapper.
Ça fait 40 minutes qu'elle cherche.
Crémience papy. C'était mon nom d'écuyère.
Ça va mieux.
Ah, magnifique.
Comme quoi, le moresque, ça te rappelle des souvenirs.
Eh oui.
Pourquoi t'étais écuyère au Puy du Fou ?
Non,
mais je trouve
plus.
Qu'elle a une tronche de...
Ouais, de...
Astia, elle a un look de femme qui aime le cheval, quoi.
Ouais. Oui, car c'est vraiment le cas.
C'est vraiment le cas, ouais. J'ai des bonnes joues, quoi. C'est une manière sympa
non,
de dire.
Non, t'es le truc altier, des gens chics qui font du cheval, quoi.
Voilà.
Voilà.
Donc, crémière balbure, ça dit bien ce truc altier.
Une reine, finalement.
Moi, je trouve ça chic.
Crémière balbure.
Du coup,
et Maribol, comment ?
Moresque, marisque. On en était
pardon,
sur
pardon.
L'alcool, pardon.
Pardon, oui.
Oui. Moresque.
Ouais, les moresques.
Ouais, voilà. Du coup, j'ai découvert les moresques.
Et voilà.
Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de l'anecdote. Je trouve que c'est génial parce que j'adore l'anis, j'adore le sirop d'orgeat qui a la menthe là. Moi, j'aime tout ce qui est du sud là. J'aime me poser
j'aime
en terrasse
du sud
et me mettre. Ah ouais, me mettre ça dans le gosier. J'adore ça. Je trouve ça rafraîchissant quoi.
Par contre, une fois, j'ai eu envie de vomir et j'ai bu ça et ça m'a fait passer l'envie de vomir. Mais
parce
que c'est l'anis.
En fait, c'est basiquement de l'eau. Parce que bon, il y a un peu de. Il y a un
le
peu
pastis.
D'anis dedans.
Mais c'est
de
bah, y a beaucoup d'eau hein, dans le pastis.
C'est surtout
d'eau, voilà. Bien sûr.
Ce qu'il fallait dire d'ailleurs, encore une fois, l'alcool est
oui,
dangereux pour la santé.
Oui,
c'est
très dangereux.
Et, dans... et le pastis est de l'eau, ok. Sauf le pastis qui est de l'eau. Ah, moi, je buvais des jets à l'eau à un moment.
Ah,
ouais.
C'est genre des mentes à l'eau pour te déchirer.
Vous boire de l'eau en fait.
C'est des mentes à l'eau un peu traîtres. Non, mais alors.
Très bien, très
pourquoi
bonne
on ne boit pas juste de l'eau, Louise ? Je vais tout expliquer.
Ah mais oui, je peux
parce que l'alcool,
le désespoir, Louise. En fait.
L'alcool est une drogue, d'accord, qui modifie ton état de conscience. Ce qui fait que quand tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est un remède incroyable et très efficace.
C'est vrai.
C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que j'en bois trop. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que c'est légalement vendu partout dans le
non,
dans
ça
le monde.
C'est parce que ça rapporte plein d'argent à l'État. Ouais. Legalize cannabis, ok.
Ou don't legalize alcohol.
ou don't legalize l'alcool.
Non, mais si tu délégalises l'alcool, ça devient trop compliqué.
Je crois que c'est impossible.
Après, ça s'appelle les années 20 aux États-Unis et la prohibition. C'est pas beaucoup mieux.
Moi, je pense qu'en France, on est islamophobe parce que les musulmans boivent pas d'alcool. Tu penses que c'est l'immense partie.
Je me suis vraiment demandé où ça allait. J'étais là.
Je pense que c'est une immense partie de l'islamophobie française. Comment inconsciente, tu vois, parce qu'on on shame tellement les gens qui boivent pas d'alcool en France. On est incapable d'accepter ça. Non, franchement, je m'engage pas, mais bon, je pensais à ça cette semaine.
Mon avis.
Comme du coup, j'arrête pas de penser au rapport qu'on a à l'alcool, tu vois, j'essaie d'écrire des blagues dessus et tout. Genre, je me dis, enfin, c'est tellement accepté culturellement. Moi, mes parents, ils m'ont vu dans des états de lendemain, oui, tu vois, où en fait, ils auraient dû intervenir. Et en France,
aller
c'est
à l'hôpital.
Plus genre, ah, ça, c'est bien ma fille. Tu vois, il y a un truc de presque de fierté, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se bat toujours un peu pour dire, bah, moi, je lève bien le coude.
Ouais.
Tu vois,
c'est une compétence, quoi.
Ouais. Moi, j'ai toujours été fière de ça. C'est terrible.
Ah, je vais te dire, en Allemagne, le coude était très haut, puisque les pintes sont énormes.
Ah oui. Bah, c'est la culture, voilà, c'est la culture dans laquelle on baigne. Et je pense que ça devient un problème quand ça devient une stratégie consciente ou pas de gestion de tes émotions, tu vois. Moi, je sens qu'il y a des jours où j'ai le petit démon de l'alcool. En fait, je me dis pas consciemment mon enfance m'a traumatisée, je vais boire un verre. Mais je sens une accumulation d'énergie en moi que certains déchargent en se masturbant, tu vois, ou en jouant à GTA, ou je sais pas, en faisant des trucs comme ça qui
déchargent. En faisant de la boxe, par exemple.
En faisant de la boxe, bon, mais voilà. Oui, j'essaie aussi parallèlement d'adopter des activités saines.
Non, mais ce qui est horrible avec l'alcool, c'est que, enfin, moi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est que tout simplement, j'ai bu sans m'en rendre compte.
Attends, quand on a enregistré l'épisode avec
Quand on avait parce que l'épisode c'était un truc, mais il y a eu toute la soirée derrière.
Il y a eu le après.
Il y a eu le post-épisode qui a été quand même.
J'y viens.
Et moi j'ai bu comme si demain n'existait pas, c'est-à-dire que j'ai oublié.
Ça, mon down.
J'ai oublié la gueule de bois.
Voilà.
Ah, bah, ça disparaît vite. Hein.
Donc t'es là, tu te dis, consciemment ou non, demain ne va plus exister. La gueule de bois n'a jamais existé, alors que ça fait 15 ans que t'en chies avec la gueule de bois, et c'est comme si à chaque fois tu redécouvrais, quoi. Comme quand on redécouvre que le syndrome prémenstruel nous met de mauvaise humeur, tu vois. Et ben c'est pareil.
Chaque mois, c'est la même chose.
On est sorti de cet épisode, donc si vous l'avez écouté, désolé.
C'est les intellos relax.
Les intellos relax étaient un peu ivres à la fin de cet enregistrement. Malheureusement, Cal, tu prenais un train très tôt le lendemain. On est resté à trois avec le petit démon de l'alcool. Et on a fait une grosse erreur, Alix, je pense, qui était d'aller de bar en bar.
Ah ouais, ça, c'est terrible.
Parce endroits où on allait fermer les uns après les autres. On a fermé tous les bars.
Là.
Et le problème d'aller de bar en bar, c'est chaque fois que t'arrives dans un nouveau lieu, c'est comme si tu recommençais à zéro.
Mais oui.
T'as un enthousiasme, tu vois, tu rentres, t'es là, alors qu'est-ce qui se passe ici? Mettez-moi un grand verre de je sais pas quoi, puis tu surenchéris à chaque fois.
C'est terrible.
C'est terrible.
Louise est dans l'incompréhension.
Bah ouais. Vraiment, totalement.
Ouais, puis moi, je me chauffe à faire des trucs genre payer une tournée gin tonic qui m'a coûté 70 euros.
Quoi?
Tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je le sais le lendemain.
Et oui.
J'ai oublié, sur le coup, je suis là. Mais attends, on est là, on est bien, il y a du piano.
Sur le coup, t'oublies tout. Alix a joué du... Non, t'as pas joué du piano.
Si, j'ai joué.
Ah, t'as joué,
et
t'as chanté au piano.
Ouais.
On parlait des bars de nuit qui ferment jamais. Et ben, on a été directement vraiment au connétable.
Aïe, aïe, aïe.
Un cauchemar d'os. Et le lendemain, c'était ma pire gueule de bois de ma vie. J'ai l'impression que c'est la pire à chaque fois, mais là, c'était vraiment horrible, horrible. J'avais mal dans ma tête. J'avais trop mal. Tu sais, j'étais coincée chez moi, j'avais rien à manger. Je voulais prendre un Nurofen Flash, mais il faut pas prendre des Nurofen quand t'as mangé. J'étais là, complètement coincée sur mon canapé. J'ai commandé du Uber Eats. Enfin, c'est des frais à non plus finir, en fait. Même ça te ruine même le lendemain,
mais
quoi.
Oui,
oui, c'est vrai.
C'est un cauchemardos.
Et mais le pire.
Et j'avais deux plateaux de stand-up le soir.
Tu y as été ou pas, du coup?
Ouais, j'y ai été.
Putain,
j'ai bu un Red Bull parce que je pouvais pas faire autrement, en fait. J'ai fait une sieste et là, fallait que je ressorte de chez moi.
Aïe, aïe.
Ça allait un peu mieux, tu vois. Je m'étais bien hydratée, j'avais mangé du gras. Ça allait mieux, mais.
Moi, faut savoir que le lendemain, j'appelle Camille parce que J'étais censée faire le montage de l'épisode avec Pépé, normalement.
Oui.
Finalement, c'est Alice qui l'a fait.
On t'a pas, on t'a pas donné cette, voilà, cette
vous avez enregistré
terrible.
1h40, c'est ça?
Ouais, 1h40. Ouais, bravo.
Et donc, du coup, le lendemain, j'appelle Camille, parce qu'elle elle m'a pas rep, et je vois qu'elle a pas vu sur le groupe WhatsApp. Et du coup, je commence
j'arrive
à m'inquiéter.
Même pas
je me
à
dis,
tenir
il s'est passé
téléphone.
Quoi, tu vois? Et donc, je l'appelle, je lui dis, meuf, ça va? Elle me dit, écoute, je suis en grosse gueule de bois. Et une heure plus tard, ou 2 heures plus tard, peut-être, Alix envoie un message sur le groupe WhatsApp de 4 quarts d'heure en disant « Je ne m'éveille que maintenant de ce trou noir qui a été hier soir. » J'étais là, oh là là, quelle catastrophe. J'étais bien dans mon lit avec ma fièvre.
Ouais. Puis le pire, je trouve, quand t'es en gueule de bois, enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de dormir avec quelqu'un. Et là, tu
oh, yeah.
Ah merde. Genre, il va falloir
chez
passer...
Chez toi ou pas chez toi?
Chez moi.
Ah. Ça, coup, c'est t'sais... mieux déjà.
Bah non, ah parce non, que faut le virer, quand t'es pas chez toi, tu peux partir.
Eh bah oui.
Que ouais, là... mais tu pars et tu fais la walk of shame, les transports. Moi, j'étais encore bourrée le lendemain matin. Ouais. J'aurais pas... Je te jure.
Mais il était... Enfin, c'était quelqu'un de super, hein, mais juste...
Mais moi, t'as pas envie d'être avec une personne.
Bah non, t'as envie de faire cacamou. Enfin, tu vois, genre... c'est vrai, c'est horrible. Enfin, c'est ton pire état, quoi.
Ouais, ouais.
Eh ben,
ouais.
C'est un vrai downtown.
Attends, attends.
Mais oui, oui.
Parce que du coup, j'ai pris des mesures. Merci, ma vie va changer. Parce qu'en fait, avant d'enregistrer cet épisode et de finir au connétable, j'avais pas bu pendant 3 jours. Je m'étais dit, non mais là, mon janvier, il a été beaucoup trop wet, faut que je me calmos, vas-y, je vais être sobre en fait, faut que je passe par une période de sobriété totale pour transformer mon rapport à l'alcool, faut que je me mette dans des situations dont j'ai l'habitude où j'aurais picolé sans picoler, et franchement, enfin c'est très dur en fait quand tu as l'habitude,
ouais.
Tu vois.
Puis je pense en plus c'est une habitude sociale l'alcool, donc c'est d'autant plus difficile quand t'es avec d'autres gens et que tout le monde boit un coup. Enfin bon, moi je dis ça comme si ça m'était arrivé, mais en tout cas je sais que j'ai eu vachement ce truc là, on en a déjà parlé, mais moi dans mon adolescence on me disait si tu vas boire. Moi j'étais là non, vraiment j'ai dit que j'avais pas envie, et donc il y avait un espèce de truc de le défi c'est de faire boire Louise. Et en fait quand j'en parle aujourd'hui avec des gens qui arrêtent de boire ou qui font Dry January et tout, et ils arrivent au bar et ils disent ok moi je vais prendre je sais pas un jus de fruits, et t'as 3 personnes qui sont en mode ah oh, mais non franchement t'es pas
mais
marrant,
tu sais que même
machin.
Les barman hein, moi je me suis tapé des réflexions
moi,
parce que moi je bois pas de fou, tu vois. Ça m'arrive très souvent de prendre des jus de tomate et les barman ils sont là ah bah fun,
ouais. On te juge sur le fait de pas être fun, on te dit t'es sûr tu veux pas de la vodka dedans, on te dit genre non mais vous voulez pas commander un vrai truc. Moi le nombre de fois où ça m'est arrivé qu'on me dise non mais vous voulez pas vraiment commander un truc, et
le personnel qui te sert,
ouais,
waouh.
Et t'es en mode, bah en fait, je vais quand même payer mon truc 5 balles, donc...
Votre coca est à 7 euros, donc pourquoi vous faites chier?
Ouais, genre, trop bizarre.
Ouais. Et du coup, là, j'ai dû trouver mes petits softs, parce que mine de rien, l'alcool, c'est un excitant aussi. Et moi, ça me réveille le soir, quand je dois aller jouer, tu vois, un petit demi. Déjà, j'avais fait ça pour commencer à transformer. Au lieu de prendre des pintes, je prenais des demi. Transformer mon rapport à l'alcool. Donc là, les 3 premiers jours de sobriété que j'avais fait, j'avais découvert mes nouvelles petites boissons. Donc Club Maté, Ginger Beer, Red Bull, j'arrête parce que après, je dors vraiment pas de la nuit. Et c'est très efficace, vous saviez.
Aïe, aïe.
Ça marche vraiment.
Ça marche vraiment, mais du coup, on dort plus jamais.
Et puis après, il y a eu cette soirée. Je suis repartie à zéro parce que j'avais fait une petite feuille où je faisais des traits, comme les jours de prison, tu sais, pour compter mes jours de sobriété.
C'est bien, t'as raison.
Et là, après la gueule de bois, bon ben déjà, t'as tout le jour où t'es en gueule de bois, ça c'est un jour sobre, c'est sûr. Le lendemain, t'es encore pas au top, donc c'est encore un jour sobre. Et là, aujourd'hui, c'est mon 6e jour sans alcool.
Allez,
bravo.
Merci. Je sais que ce soir, je vais aller jouer, je vais prendre mon petit Club Maté ou ma petite ginger beer. C'est vachement bon, la ginger beer.
Ouais, c'est très
et
bon.
En plus, le gingembre, ça te met le petit kick qu'il te faut, tu vois. J'ai l'impression. Peut-être c'est dans ma tête, mais c'est sympa. Et voilà, quoi. Et on va en venir à bout, quoi.
Mais bravo quand même.
Peut-être un jour j'arriverai à boire qu'un verre, c'est mon rêve.
Ah ouais,
un verre ou deux, tu vois. Parce que c'est ça le problème, c'est quand je commence, en fait, j'y
allais. Et en plus, à chaque fois, tu dis allez, on boit qu'un verre ou deux. Hein.
Mais
personne ne fait
personne.
Ça, en fait. Enfin, personne ne
moi, je vais tout droit, tout oblivion, quoi. Je veux ne plus.
Ouais, et puis en plus, je trouve que, tu vois, genre, moi, ça m'est arrivé de te dire, si tu veux, genre, je suis ta coach, entre guillemets, mais tu sais, genre, en mode, je veux bien aller boire des coups avec toi et tout. En fait, si t'es pas avec quelqu'un qui boit, peut-être ça t'incitera pas non plus, tu vois. Ou alors d'être en mode, genre, moi, je veux bien faire attention pour vous ou quoi. Mais en fait, il y a aussi le côté de... J'ai pas envie d'être la go culpabilisante qui est en mode...
Ah non, bien sûr.
Et puis surtout, t'as ce truc au bout du deuxième verre, c'est... Oh ouais. Ce truc qui vient
où on en est.
Le nombre de fois où je vous ai entendu faire ce putain de bruit.
Allez,
tant pis. Ouais.
Et en plus, moi, je constate un truc aussi. Ton entourage commence à jouer. Dans mon entourage, j'ai que des gens qui picolent de fou. Mm. Et même mes amis qui font pas la fête jusqu'à 8h du matin, t'inquiète que tu vas dîner chez eux 3h, on se mure la tronche, tu vois. Et j'ai deux amis qui boivent pas, c'est toi et mon amie Florence. Et le reste, ça picole tellement sévère que jamais on va se dire, bah, ce soir... vas-y, on boit pas de concert, quoi.
Bah, nous, on l'a déjà fait.
Ah bon?
Oui.
Moi, je l'ai déjà fait.
Vous deviez bosser.
Bah oui, quand on devait bosser, on était là. Ce soir, on boit un Perrier. Ça nous arrivait au moins deux fois, je crois.
Ouais, bah, alors moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle qu'on buvait un Perrier et qu'après, j'étais là. Allez, un petit verre de Côte d'Or.
Ouais, parce que le allez, il marche après deux verres, mais il marche aussi après un Perrier.
Oui. Parce qu'en fait, t'as l'impression que ça annule, tu vois, le truc. Si tu bois un.
Tu t'es bien hydraté.
Soft, voilà. Avant, si t'as bu un coca, après, t'es là. C'est bon, j'ai bu un soft, allez.
Large.
Et ça, c'est tellement. Mais je suis d'accord, c'est un super sujet, Camille. C'est tellement dur de s'en sortir.
Voilà, bah, je vous tiens au jus d'abricot.
Oh, joli. Très bon jus, cela dit. Mon jus préféré. À commander au bar.
Oh, ouais. J'aimerais tellement être comme ça. Oh, un jus d'abricot, s'il vous plaît.
Nectar de tomate. Eh bien, merci Camille pour ce down qui est très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler en faisant un up où tu diras que t'as réussi à combattre.
Ouais. Démon,
malgré tout. Écoutez, on va finir avec un up de ma part.
Ouais.
C'est très simple, puisque moi, hier, j'ai déménagé.
Ouais. Formidable.
Et je suis trop heureuse. J'ai eu l'appartement de my dreams.
Manifesting.
Oui, oui, oui. Manifesting. J'en ai parlé dans le cinquième quart d'heure pour les gens qui sont abonnés, pour vous raconter un peu toutes les péripéties d'avoir cet appartement, mais c'était finalement pas très compliqué en vérité, parce que à partir du moment où je me suis déterrée à chercher un appart, j'ai visité des trucs et j'ai visité cet appart et j'étais là. Attendez, pardon, c'est dans mon budget d'avoir un appartement avec un balcon, c'est incroyable. Et donc du coup, j'ai posé mon dossier et je l'ai finalement eu. Et du coup, j'attendais de pouvoir déménager. Puis après, j'ai eu la grippe. Donc ça, c'était vraiment pile la semaine où j'avais décidé que j'allais déménager. Mais j'ai fait, bon bah c'est pas grave, on va décaler de quelques jours. Et donc j'ai fait tous mes cartons. Et c'était très bizarre parce que j'ai fait mes cartons. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée à Paris il y a 7 ans, 8 ans, je déménageais de Nantes à Paris et j'avais loué une voiture dans laquelle j'avais mis toute ma vie. Et je suis arrivée à Paris avec toutes ces affaires-là. Et là, vraiment, on a fait deux allers-retours en voiture et c'était plié, quoi. Aucun meuble, en fait. Faut
mais
le savoir.
Parce que t'étais dans une coloc,
oui,
t'avais que
ça.
Ta chambre.
Oui, c'est ça. J'avais que ma chambre et donc, du coup, j'ai un maximum de livres et quelques vêtements. Et c'est tout.
Quelques vêtements. On dirait que t'as vraiment fait un baluchon.
Oui, c'est mais pas très loin, quoi. Vraiment, genre, j'ai une valise, un sac et peut-être, genre, un carton, genre, de vêtements.
C'est minimaliste, voilà, c'est tout.
Et faut savoir que dans mon nouvel appart, elle a fait, genre,
choc. Super. Non, mais génial.
J'aimerais pas déménager ton placard, toi, putain.
Parce que comme
tu te rappelles quand tu jetais
affaires.
Tout par terre et que tu poussais dans ton couloir comme
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr. Mon ex s'en rappelle surtout.
Oui. Et du coup, donc j'ai fait tous mes petits cartons et tout. Malgré la grippe, en fait, à la base, je me suis dit, franchement, une sieste de la grippe, puis un carton, puis une sieste de la grippe, puis un carton. Non, j'ai passé une journée ou deux entières au lit afin de décéder dans mon lit. Et après, j'ai fait bon, vas-y, là, je me sens plus en forme. Je vais faire des cartons. Donc j'ai fait tous mes petits cartons et mon mec m'a aidé. On a eu la voiture de son beau-frère et il m'a aidé à déménager. Et en fait, à la base, j'étais en mode en fait, comme j'ai déménagé en proche périphérie de Paname, j'étais en mode, je vais pas faire venir des gens, des amis à moi jusque-là pour 4 cartons et demi, tu vois. J'avais un peu le truc de, est-ce que j'ai vraiment besoin de bras en plus pour mon déménagement? Et en fait, je crois que j'ai annulé. Il y avait Camille qui avait noté dans son agenda et un autre pote et j'étais là, vraiment, je crois que c'est pas nécessaire. Et j'avais raison parce qu'on a fait deux allers-retours en voiture et qu'on a plier ça en 4 heures, sachant qu'on a passé au moins genre 2 fois 30 minutes dans les transports, enfin genre en voiture quoi. Donc au final, c'était hyper rapide. Et du coup, je suis dans un nouvel immeuble et j'ai passé.
Mais qui doit te paraître bien vide du coup si
c'est vide. Ouais. Ça, genre, ça résonne chez moi tellement il n'y a rien.
Et que c'est immensissime.
C'est aussi très grand car j'ai un appartement de 50 mètres carrés. Donc croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves car vraiment je ne pensais pas que ça serait possible un jour que j'ai un appartement si grand avec une chambre.
Et une vue.
Et une vue aussi. Ouais, je suis au 5e étage et donc j'ai de la lumière. Et hier soir, il y avait du soleil chez moi. J'étais là. Pardon.
Ah ouais, excusez-moi. C'est vrai que c'était sombre hein, l'appart d'avant.
Ouais, bah j'étais au premier étage. Ouais. Ouais, premier étage dans Paris, en plein milieu, donc vraiment avec des immeubles partout autour. Donc c'est clair que t'as pas beaucoup de luminosité. Et donc voilà, donc j'ai fait ma première nuit dans mon appartement cette nuit.
Ouais.
Et franchement, j'ai dormi comme une tombe aussi parce que j'avais déménagé et que c'était bien fatigant au final, tu vois. Et j'ai vraiment pas d'affaires. C'est un peu pitoyable. Je disais à Kalindi tout à l'heure, elle me dit, mais t'as des assiettes, des trucs. J'étais là, ouais, j'ai acheté hier 2 assiettes à Auchan, voilà. C'est mon max. J'ai 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, 3 tasses. Voilà. On en est là.
On peut même pas venir manger chez toi.
J'avais emménagé chez moi et que j'avais fait mes premières courses, mais j'avais pas de couvert. j'ai dû repartir au Monoprix.
Bah là, c'était un peu ça vraiment hier. J'ai fait les courses et j'étais là, ah merde, bah je voulais une passoire mais j'ai pas de passoire, bon bah je note pour plus tard m'acheter une passoire. Mais donc là ça va être trop cool, je suis vraiment dans Pinterest quoi, je suis en mode oh, ok, ça c'est super, ça je veux faire ça et tout, et j'essaye de pas recommencer les trucs que je fais tout le temps, c'est à dire genre là je peux vivre à la zbeul, mais je peux vivre tu vois, et je suis capable de me laisser vivre comme ça pendant longtemps, tu vois.
Ah ouais, c'est
ouais.
Vrai
ouais.
Ah ouais.
Et d'être en mode
bah
genre...
On t'aidera.
You don't deserve... Enfin, c'est pas tu mérites pas, mais c'est juste genre... non, mais ça va, tu vas pas...
Oui, t'as pas besoin de luxe, quoi. Ouais, genre, t'es en mode...
Oh là là, quelle chance. Quel cœur simple.
Mais bon, ça serait quand même bien que j'ai genre une deuxième chaise et un canapé, déjà, dans un premier temps.
Je t'imagine trop toute seule, assise sur une chaise sans table.
Non, mais ça va. J'ai une table. J'ai... Alors... Il n'y avait pas la place de mettre les tréteaux, qui étaient des tréteaux moches, de mon bureau dans la voiture. Du coup, je les ai laissés chez WAM, enfin, à l'ancien chez WAM. Et du coup, j'ai une immense planche de bois que je ne peux pas poser puisque je n'ai pas de tréteaux. Mais donc, j'ai un tout petit bureau qui fait 1 mètre sur 40 cm que j'avais acheté à l'époque où j'étais dans une toute petite chambre. Et donc, je l'ai pris et je l'ai remonté hier. Et j'étais vraiment genre au milieu de mon salon avec cette petite table, ma petite chaise, et je mangeais mon plat en écoutant Game of Thrones, et j'étais là, bah, écoute, on est quand même pas mal. C'est pas le grand luxe, mais c'est bien. Et c'est surtout, genre, là, je suis vraiment trop excitée de me dire que je vais pouvoir, aménager.
Mais moi, je trouve que c'est le mieux d'avoir un appart pas meublé. Je cherche un appart en ce moment-là, et en vrai, tout ce que je vois, c'est meublé.
C'est
mais
horrible.
C'est meublé avec le fond du cul. Ouais. Et sans vouloir juger les goûts des gens, hein, mais les gens ont des goûts de merde.
Mais attends, les gens qui louent des meublés, ils louent pas pour des bons goûts. Hein.
Bah oui,
ils
c'est
louent
ça, c'est vraiment des chiens, putain, meublés correctement, bordel de merde, on n'est pas des chiens, quoi.
Tu vois.
Et je trouve que c'est vraiment le best d'avoir un truc où t'as tout à faire de zéro. En plus, enfin, à Paris, on a des gros Emmaüs, on a plein de trucs, on peut aller acheter des meubles à pas cher et à vraiment original, donc tu
j'ai
vas t'éclater.
Hâte,
moi, j'ai vraiment le Emmaüs de Pantin, là, je le ponce.
En vrai, moi,
littéralement,
je suis là ce week-end.
Je ponce des tables. J'ai Emmaüs de Pantin.
Moi, je suis là ce week-end et je vais bientôt dans ma maison de campagne. Je vais en acheter plein de trucs. Donc, si tu veux, je t'accompagne avec plaisir.
Bah, c'est gentil, mais ce week-end, je serai pas là car je travaille.
Putain.
Mais ce qui peut être bien, et moi, ce que j'avais fait, parce que pareil, moi, je peux me laisser un peu de moins en moins. J'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais pareil, moi, pendant très longtemps, il y a plein de trucs qui me paraissaient... Enfin, tu vois, le luxe, et c'était pour moi trop... Je sais pas, je m'en préoccupais pas, quoi.
Ouais.
Donc, j'avais pas de style, j'avais pas de... Enfin, tu vois...
J'avais rien.
Non, mais tu vois, par exemple, me couper les cheveux, bah, je le faisais moi-même, parce que je faisais une queue, tu vois,
ça,
en avant. Et enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, de petits luxes dans la vie. Et je trouve que c'est dur à en implémenter. Et ce que j'avais fait, moi, quand j'ai emménagé dans mon appart, c'est que j'avais demandé à une copine qui se lançait à l'époque dans la décoration d'intérieur. Marina Kouch, je l'adore. Mais sauf que, elle a arrêté, je t'aurais conseillé ses services parce que c'était hyper bien d'avoir quelqu'un qui te fait la liste des courses de ce que tu dois faire. Elle m'avait complètement modélisé parce que moi j'ai du mal à me projeter dans les espaces.
C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai, en fait, l'appart, il est vraiment incroyable et je sais que ça peut être un truc trop bien, mais j'ai vraiment du mal à me dire ok, ce canapé ira là et ça ira très bien avec tel truc et tel
moi,
machin.
J'adore. Moi j'adore, je peux faire un coaching.
En fait, genre, par exemple, genre, sur Pinterest, je vois des trucs et je suis en mode ça c'est trop beau, mais comment est-ce que je le fais et comment j'associe les trucs.
En essayant, hein.
Et
ah, me s'il décider. Te plaît, je peux t'aider.
Bien sûr, Camille, tu m'aideras.
Youpi.
Pas de problème. Mais ouais, donc du coup, là, mes next steps, c'est d'aller à Emmaüs. Youhou. Et ça va être trop bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de passer du temps à Emmaüs parce que je trouve
c'est vraiment bien.
C'est ça. J'aime trop le côté seconde main et pas avoir des trucs neufs qui ont déjà des histoires et se dire ok. Et j'ai du mal à avoir la vision et je me dis j'ai envie de pouvoir voir un meuble et de me dire attends, je vais faire un do it yourself. Là sur Instagram je suis que des meufs qui font des DIY, des machins, des trucs, qui retapent des trucs tout
des
le
meubles.
Temps
ouais,
et c'est trop
pareil.
Bien, ça donne trop envie.
Bah c'est le truc que je fais là en ce moment quand je ponce ma table de chevet.
Tu fais quoi alors?
Et ben alors sûrement je vais évider la porte et mettre du canage. Voilà, parce que c'est classique. Et là je suis en train de poncer parce que la peinture était très moche. Et donc, je découvre un très joli bois, très clair, alors que la peinture, elle le rendait très sombre. Et donc, je vais juste le vernir comme ça, mettre du canage, tu vois. Faire un truc très simple. Et voilà, j'en ai eu pour 15 euros chez Emmaüs.
Trop bien. Voilà. Bah ouais, moi, j'ai trop hâte de faire des trucs design. Là, je suis une meuf qui a fait... tu sais, genre, elle a récupéré une espèce de petite étagère... Enfin, pas une étagère, mais... merde, j'arrive pas à parler.
Petite commode.
Ouais, une petite commode IKEA, un petit truc genre en deux étages.
Blanc et elle a mis les lampes à l'intérieur. Elle a peint en orange et elle a.
Ouais.
Ouais.
Je sais plus comment elle s'appelle.
Je la suis aussi.
Elle est cherry.
Je sais plus. Bon, j'essaierai de retrouver, de mettre dans les notes. Mais ouais, elle, j'ai vu son Insta il y a 3 jours et depuis je suis en mode oh my god.
Ouais.
Donc en fait, elle met sur la petite truc, elle met une planche qu'elle, dans laquelle elle a découpé des formes. À l'intérieur, elle peint en orange et elle a mis 2 lampes LED collées à l'intérieur. Et pouf, ça rend un truc trop stylé, c'est trop beau.
Ouais.
Et moi, tout ce qui est design comme ça, un peu années 70 et tout, je trouve ça vraiment trop stylé.
On va s'éclater.
Donc,
chez toi,
ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Et du coup, j'ai déjà un Pinterest avec 12 000 idées et j'ai trop hâte. Et là, le truc que je voudrais faire, en gros, quand on entre chez moi, il y a un petit couloir avec 2 gros placards. Et les portes des placards, tu sais, c'est des portes qui s'ouvrent à moitié en zigzag, là.
Comme chez les grands-mères,
accordéon,
ouais,
là.
Un peu accordéon.
Enfin, chez ma grand-mère, c'est comme ça.
Mais c'est pas vraiment un accordéon, mais c'est un peu l'idée, tu vois. C'est des portes en métal qui s'ouvrent comme ça et ça fait du zigzag. Et je me disais, je vais trop demander à ma meilleure pote qui a l'habitude, qui fait des peintures murales et tout, de me faire genre la déco de ces 2 portes-là pour que ça fasse.
Alors attention, tu n'as pas acheté cet appart.
Bah, j'ai pas acheté, mais en fait, j'ai quand même l'intention d'y vivre un sacré paquet de monde. Donc,
et puis, t'as le droit, c'est du moment que tu repeins en l'état. Et même, enfin, il y a plein de propriétaires qui sont OK pour que tu fasses, tu leur demandes.
Oui,
leur
puis
avis,
tu vois, genre là, je vais vraiment peindre. Si je repeins en blanc derrière, on s'en fout.
Oui,
c'est clair.
Là, j'ai, par contre, dans mes toilettes, un carrelage absolument immonde. Et là, je suis en mode, qu'est-ce que je vais foutre dans mes toilettes pour cacher cette merde?
Et bah alors, tu sais que t'as des éliges marocains que t'achètes à Leroy Merlin, t'as juste à décoller et en fait que tu colles par-dessus du carrelage ou de la crédence. Et nous, on commande ça là parce que mon mec, il a un appart en Espagne, on est en train de réfléchir à comment on va le décorer, etc. Et du coup, je regarde plein d'idées et les éliges à découper, à décoller.
C'est quoi des éliges?
Les éliges, c'est les carreaux marocains, tu sais, un peu dans les tons de vert, émeraude et bleu. Okay. Et c'est souvent ce qui compose les piscines marocaines, tu sais.
Ah, très bien.
Mais trop c'est beau, pas trop, trop. Ça fait pas cheap de mettre des autocollants sur des.
C'est pas des autocollants, c'est vraiment des éliges, mais posées sur une espèce de grille. Donc non, ça fait pas cheap, c'est vraiment hyper bien. J'avais été voir chez Leroy Merlin et c'est vraiment pas cher. Je crois que t'en as pour 30 euros le carré de neuf. Donc tu calcules si c'est pour une petite surface, même pour les crédences de cuisine.
Ouais,
c'est vraiment
parce que là, c'est vraiment moche du cul. Faudrait que je vous montre, mais voilà. Mais donc, mais bon, enfin, franchement, là, j'ai un appartement, mais qui est tellement incroyable.
T'es un bravo, Loulou.
J'ai trop hâte de vous inviter chez moi
on a hâte
quand
aussi.
J'aurai d'autres chaises
et d'autres couvertures
ou un canapé par exemple, tu vois, genre afin que vous puissiez vous asseoir correctement.
Trop hâte.
Mais autant vous dire que là ce matin je me suis réveillée mon appart il donne vers l'ouest et donc j'ai pas le lever du soleil, par contre j'ai le lever du soleil sur tous les autres immeubles et c'est vraiment genre le roi lion, c'est genre
joli.
Tout ce qui est dans la lumière est à toi, quoi. Et donc j'ai vraiment il y a un bâtiment qui est incroyable, je vais essayer de chercher ce que c'est sur Google Maps en satellite, mais qui est vraiment qui a des espèces de grands panneaux en cuivre qui reflètent le soleil de fou le matin et c'est trop beau et j'étais là Waouh, c'est incroyable. Et j'ai aussi la vue sur le Stade de France, sachez-le. Donc voilà, j'ai mon nouvel appartement. Bravo. Je suis joie, je suis ravie. Et comme quoi, voilà, mon 12-week challenge, il a bien marché.
Bravo.
En un mois, franchement, je me suis déterre à partir de début janvier. Je me suis dit, le truc dont je me suis le plus plaint, c'était d'être en colocation et d'être au premier étage dans un immeuble. Et un mois plus tard, nous sommes le 31 au jour d'aujourd'hui où on enregistre, j'ai un nouvel appart.
C'était bravo, crazy.
Bravo, trop contente pour toi.
Merci. Et merci à toutes les personnes qui ont manifesting avec moi sur Instagram. Parce que j'avais fait une story en disant j'ai déposé mon dossier pour un appartement incroyable. Et c'est celui-là que j'ai eu. Donc merci à toutes et à tous pour vos pensées.
Merci.
Voilà, on arrive à la fin de ce 4 quarts d'heure.
Ouais. Ouais.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes pour vos ups et vos downs. Et merci. Merci auditeurs, auditrices de nous suivre chaque semaine. Si jamais vous en voulez plus, le cinquième quart d'heure est disponible. On teste un nouveau format, c'est le snap quart d'heure, c'est-à-dire que il est là et dans un mois il sera plus là ou dans deux semaines il sera plus là. Donc
pour tous les cinquièmes quart d'heure.
C'est le quart d'heure avec Pépé Audi qui est normalement encore en ligne.
Ça s'appelle La dignité de Kalindi, coûte 8,40€.
Voilà. Kalindi est ravie qu'on le rappelle.
Je pense que ça pourrait être le titre de ce podcast.
Ce podcast est gratuit.
Oui.
Non mais en gros c'est pour vous dire que ce sera pas tous les cinquièmes quart d'heure comme ça. C'est quand on raconte des trucs
dégueulasses
ou un peu
honteux,
crunch, et qu'on n'a pas envie que ça reste ad vitam aeternam sur internet. Donc on les laisse semaine, deux semaines, un mois. Max, et après ça top.
Et après
dégage.
C'est ciao.
Donc, et ceci dit, pour tous les autres, quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les cinquièmes quart d'heure. Voilà. L'histoire du cinquième quart
d'heure. Exactement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte en effet 8,40€. Et vous avez un quart d'heure de plus chaque semaine, ce qui vous fait un épisode entier chaque mois. Merci de nous écouter, de nous soutenir. Ça fait trop plaisir.
Merci.
Et c'est dispo que sur les applis de podcast.
Ah oui.
Je le rappelle, parce qu'il y a
si
plein de gens qui me demandent.
Sur Spotify,
et tout.
En effet,
possible.
Ça ne marche pas. Car vous allez avoir un lien secret de cinquième quart d'heure. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se dit à dans 4
ans. Adieu.